Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
Cher au cœur de tous les Lotois et plus largement encore, le sanctuaire de Rocamadour fait pleinement partie du patrimoine spirituel, historique et culturel. Chaque année, la ville accueille près de 1 million de pèlerins, mais aujourd'hui le sanctuaire est en danger et a besoin d'importants travaux de restauration. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Florent Millet, recteur du sanctuaire de Rocamadour. Bonjour mon père.
Bonjour.
Et Pierre-Henri Delafage, vous êtes directeur de ce sanctuaire de Rocamadour. Bonjour à vous.
Oui, bonjour Timothée.
Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que, pour débuter, vous pouvez nous faire un état des lieux de la situation au sanctuaire de Rocamadour ?
Le sanctuaire est composé de plusieurs parties, puisqu'il y a effectivement le sanctuaire même accroché à la falaise avec la chapelle de la Vierge Noire. C'est le cœur du sanctuaire, c'est là où tout a commencé. Avant le 5e siècle, ce sanctuaire se développe, etc. Et puis ensuite, il y a aussi au 14e siècle une partie qui va être rajoutée en haut de la falaise complètement pour protéger le sanctuaire. On est dans les guerres de 100 ans, etc. Et on veut protéger le sanctuaire des attaques qui pourraient arriver par le haut et en particulier des Anglais. Bon, ceci dit, ils auront quand même le château et ils prendront quand même le sanctuaire. Mais voilà, donc du coup, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui et qui est en danger aujourd'hui, c'est cette partie du haut, ce qu'on appelle le château, c'est-à-dire le rempart et une maison qui a été construite au 19e siècle pour accueillir des missionnaires et qui aujourd'hui sert à accueillir en même temps des prêtres, des séminaristes, des bénévoles et aussi que nous voudrions ouvrir plus largement au public. Donc c'est particulièrement cette partie-là qui est en danger puisque moi je suis arrivé là sur le sanctuaire il y a 6 ans maintenant et quand je suis arrivé j'ai vu l'état déplorable des lieux avec qui avait été attaqué par les termites, qui a été attaqué par l'humidité, etc. L'électricité n'était plus du tout en état. Je ne parle pas du chauffage ou même des huisseries qui étaient complètement détériorées. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut faire quelque chose parce que ce lieu-là est indispensable à la vie du sanctuaire, à la mission du sanctuaire, parce qu'en définitive, sans ce lieu-là, on n'a pas de quoi accueillir tous les dizaines et dizaines de bénévoles qui viennent chaque été.
Parce que c'est ça aussi qui fait la particularité du sanctuaire de Rocamadour, c'est que ça draine beaucoup de monde. Hein.
Voilà, alors, en même temps, ça draine beaucoup de monde du côté des touristes. Alors, on a plutôt tendance à dire que c'est entre 1,5 million et 2 millions de personnes qui passent chaque année. Mais en même temps, c'est tout un côté spirituel. Beaucoup de pèlerins qui viennent, beaucoup de pèlerinages, de paroissiaux de toute la région Midi-Pyrénées, et même bien au-delà de toute la France, qui viennent à Rocamadour. Des pèlerinages de pères de famille, de mères de famille, des groupes de diverses spiritualités, diverses sensibilités, tout le monde s'y retrouve parce que Rocamadour c'est un sanctuaire si je puis dire à taille humaine. On n'est pas perdu, là on se sent bien, on se sent vraiment en famille quoi, si je puis dire, sur ce lieu. Et puis en même temps l'autre dimension où on doit accueillir beaucoup ce sont les bénévoles parce que c'est eux qui ont un rôle privilégié auprès des touristes, auprès des pèlerins, pour les accueillir, pour animer le sanctuaire, pour que le sanctuaire soit propre chaque jour. Et donc tout cela, ça demande vraiment, vraiment la participation d'un très grand nombre de jeunes. En général, c'est des jeunes entre 18 et 30 ans qui viennent là, qui donnent pendant l'été une semaine, 10 jours de leur été pour pouvoir venir évangéliser, pour pouvoir venir servir, pour pouvoir venir se ressourcer, se former, etc. Et puis pendant l'année, bien sûr, nous accueillons aussi toujours des jeunes et des bénévoles à longueur de temps.
Vous en avez un petit peu parlé au début de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement les différents lieux ? Alors, il y a la chapelle Notre-Dame, la basilique Saint-Sauveur, le grand escalier, le chemin de croix et le château de Rocamadour. Tout est sur un même site ?
Alors voilà, tout est sur le même site, mais tout est superposé l'un au-dessus de l'autre, si je puis dire. En bas de la vallée, inévitablement, il y a le ruisseau qui coule à sec la plupart du temps. Juste au-dessus de ce ruisseau, il y a ensuite le village. Au-dessus du village, il y a le sanctuaire. Et au-dessus du sanctuaire, il y a le château. Voilà, pour aller d'un lieu à l'autre, entre le village et le sanctuaire, effectivement, il y a ce fameux grand escalier avec 216 marches hein, que régulièrement nous montons à genoux pour pouvoir se mettre dans la démarche de pèlerin et de pénitence aussi pour pouvoir demander au Seigneur sa miséricorde et en même temps nous unir aussi à toutes ces peines qu'il a pu avoir pour nous. Et puis ensuite, pour monter du sanctuaire jusqu'au château, eh bien effectivement, là cette fois-ci, il y a le chemin de croix, un très beau chemin de croix qui date du 19e siècle, alors que le grand escalier, lui, date du 12e siècle. Voilà, donc tout ça fait partie intégrante de ce sanctuaire qui est sur plusieurs étages, si je puis dire. Entre le haut et le bas, il y a 150 mètres de dénivelé. Donc, vous voyez, ça nous fait faire un petit peu de sport chaque jour. Comme j'aime bien dire, le sanctuaire de Rocamadour, c'est pour les personnes malades en bonne santé.
Et pour les sportifs. C'est justement le château qui a besoin d'une rénovation urgente. Est-ce que vous avez identifié certains travaux à faire ?
Alors, c'est le moins qu'on puisse dire, certains travaux, parce que, il y a 2 ans de cela, voyant l'état des lieux, eh bien, avec l'aide d'une paroissienne, j'ai fait appel à la Fondation du patrimoine et à un architecte en particulier qui est venu faire un état des lieux pour savoir vraiment est-ce que ce que je disais de l'état du château était juste une idée de ma part ou est-ce que c'était vraiment quelque chose de réel. Et là, effectivement, dès les premières études, eh bien, tout de suite, on a été alerté sur la dangerosité du lieu par rapport à tous les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, que ce soit les termites, que ce soit les infiltrations, que ce soit la vétusté électrique, la vétusté du chauffage, la vétusté de tout l'ensemble. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Eh bien, tout simplement, on garde les murs extérieurs et il nous faut complètement vider l'intérieur, entre guillemets, il n'y a rien à récupérer. Voilà, tout est vraiment en piteux état. Donc du coup, on enlève complètement la structure intérieure, tous les étages. Et là, on va repartir sur quelque chose de nouveau pour pouvoir réinstaller les différents projets qu'on va avoir, du coup, que ce soit pour de l'accueil de jeunes, de groupes, que ce soit pour de l'accueil de groupes qui pourraient venir pour des réunions ou des conférences ou autre chose sur place, que ce soit aussi avec une dimension plus culturelle, où là on aimerait développer un petit peu tout ce qui est un historama de Rocamadour pour présenter un petit peu toute cette histoire de Rocamadour qui aujourd'hui fait vraiment défaut. Et puis aussi, on voudrait en profiter pour aménager les combles qui sont immenses mais qui jusque-là n'étaient pas occupés. Aussi faire des dortoirs et faire un lieu aussi qu'on appellera un scriptorium pour pouvoir avoir un lieu d'étude particulièrement sur ce beau site du château de Rocamadour. Donc vous voyez, tout est à refaire, si je puis dire, avec plein d'idées en même temps. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut penser, rêver un petit peu un avenir pour Rocamadour. Et en même temps, c'est quelque chose d'absolument nécessaire parce qu'aujourd'hui, le château, dans l'état actuel, ne peut plus être utilisé pour l'accueil. Et donc, c'est un énorme manque au sanctuaire. Toute cette partie, si je puis dire, de l'arrière-base du sanctuaire qui est complètement obsolète et qui ne peut plus être utilisée.
Oui, justement, c'était ma question suivante. La détérioration du lieu de ce sanctuaire de Rocamadour, ça a un impact, j'imagine, sur les pèlerins.
Alors, ça a surtout un impact sur l'accueil des prêtres, des séminaristes et des bénévoles, c'est-à-dire de tous ceux qui vont être au service du sanctuaire. Et du coup, in fine, bien sûr, par répercussion, ça a un impact sur l'accueil qu'on peut avoir au sanctuaire, puisque, comme je vous dis, quand vous avez le sanctuaire qui grouille vraiment l'été, c'est tout le monde se touche de partout. Si on n'a pas nos polos bleus, c'est tous nos bénévoles là qui sont tous avec un même polo, et donc pour être identifiés, s'ils sont pas là pour accueillir les gens, pour les orienter, pour leur donner envie de visiter un petit peu, ou ou de s'arrêter un petit peu plus longuement pour un temps de prière, ou pour participer à une visite, ou pour tout simplement donner des renseignements par rapport aux gens qui sont un petit peu perdus, voilà, où sont les ascenseurs, où sont les toilettes, etc. etc. Vous voyez, des choses de très basiques, mais n'empêche qu'il faut être là. Et puis en même temps, ben voilà, hein, c'est notre but quand on est sur le sanctuaire, eh bien c'est de pouvoir dire aux gens, ben, est-ce que vous connaissez la Vierge Marie ? La plupart des gens qui viennent à Rocamadour ne savent même pas qu'ils arrivent sur un sanctuaire. Hein, pour eux, c'est un beau château, quoi. Mmh. Voilà, c'est quelque chose de vieux, d'ancien, mais si on n'a pas un petit bonjour, rien que pour leur dire voilà, qu'ils sont bienvenus, et s'il n'y a pas un dialogue qui s'instaure avec les pèlerins ou les touristes, eh bien, très souvent, eh bien, ils passent complètement à côté de ce qu'est le sanctuaire de Rocamadour, alors que là, effectivement, à travers quelques petits échanges, eh bien, les gens découvrent waouh, que c'est un lieu extraordinaire, qu'ils ont une grâce, une chance, voilà, un privilège d'être dans ce lieu-là, et que ben voilà, il faut qu'ils s'arrêtent plus que 30 secondes, comme beaucoup le font, en traversant tout simplement le sanctuaire, malheureusement.
Bien évidemment. Vous parliez d'infiltration, vous parliez de termites. C'est dû à quoi ? C'est un mauvais entretien ? C'est pas forcément assez de moyens pour gérer ces problèmes ? Ou c'est juste l'usure du temps ?
Oh, il y a tout à la fois, puisque parce que inévitablement, ce sont des vieux bâtiments, en particulier la partie château, c'est une partie du 19e siècle, à l'intérieur des remparts qui, eux, sont du 14e siècle. Mmh. Et effectivement, ça fait plus de 150 ans que ça a été construit. Donc, le temps passant, par le biais des remparts qui, sont devenus un petit peu poreux, si je puis dire. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltrait dans les remparts. Et comme le rempart, c'est le mur extérieur de la maison des chapelains de ce château là-haut, et bien ce qui fait que l'eau suintait à l'intérieur.
Et oui.
Donc du coup, il y a eu une grosse campagne de d'étanchéification des remparts, et ce qui a été fait et qui se continue encore, on n'a pas encore fini, hein, parce que c'est un gros travail fait par des entreprises spécialisées, des Bâtiments de France et tout cela. Et donc du coup, ça, c'est un fait. Vous savez, entre le moment où les infiltrations commencent et où on commence à s'en apercevoir, malheureusement, il se passe du temps. Mmh. Et puis, il y a des recteurs qui passent. Il y a eu beaucoup de mouvements de recteurs. Mmh. Et ce qui fait que si un moment, un recteur s'aperçoit d'un problème, s'il s'en va, il ne s'en occupe pas. Et puis, il vient un autre. Et puis, le temps qu'il commence à s'en occuper, il s'en va. C'est vraiment il n'y a pas eu vraiment de suivi de ces bâtiments, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on arrive dans un état de délabrement très important. Et puis pour les termites, inévitablement, elles ont profité de l'humidité pour pouvoir s'installer là. Et autant vous dire qu'elles ont fait du travail, si je puis dire, puisqu'elles ont mangé une bonne partie des bouts de poutre enfichés justement dans les remparts, ce qui fragilise considérablement effectivement la structure, quoi, en fait.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cet écroulement d'un des symboles de l'église du Lot ?
Si je puis dire, c'est moi qui ai un petit peu lancé l'alerte en arrivant là, parce que pour moi, c'est pas normal du tout de voir ce lieu en même temps qui fait partie du visage de Rocamadour. Hein, imaginez Rocamadour sans château, c'est comme si vous mettiez un corps sans tête, quoi. Donc du coup, c'est quand même absolument dramatique que ce château puisse venir à disparaître, premièrement. Et deuxièmement, pour moi, qui est quand même la responsabilité des jeunes que j'accueille dans ce lieu, c'était aussi dramatique de voir les conditions dans lesquelles j'accueillais ces jeunes qui me disaient, combien de fois ils m'ont dit, ah, quand on branche nos portables dans les prises, ça fait crrrr. Je disais, oui, c'est normal, du moment qu'il n'y a pas vos doigts entre les deux, ça va. Mais bon, au bout d'un certain temps, il faut quand même devenir sérieux, il faut vraiment faire quelque chose. Alors, quand je me suis aperçu de tout ça, vous voyez, on m'a dit, ah, mais c'est pas grave, on va refaire petit à petit, chambre par chambre. Mais moi, je voyais bien que c'était pas une question de refaire petit à petit, chambre par chambre. On n'était plus à ce niveau-là. On était dans un état vraiment tellement dégradé qu'on ne pouvait plus se lancer dans une petite restauration ou un lifting, si je puis dire. Là, il s'agissait vraiment de gros travaux. ce qui a été confirmé justement par notre architecte, et effectivement aujourd'hui ça, c'est des travaux gigantesques. Je ne m'attendais pas du tout à cela, surtout quand on nous présente la facture. Autant vous dire que là, pour le coup, ça refroidit pas mal.
Quel est le risque justement si le château n'est pas rénové ?
Ah ben, à 10 ans de cela, il n'y aura plus de château, c'est tout simple. C'est tout simple parce que tout l'intérieur est en train de tomber. Il faut vous imaginer que les plafonds, quand vous êtes sur le plancher et que vous sautez un petit peu, vous avez tout qui commence à s'enfoncer. Donc c'est assez simple comme affaire. Le château disparaîtra, ça c'est sûr. Voilà. Après, il peut toujours rester des murs extérieurs qui aujourd'hui, effectivement, quand on les regarde comme cela, peuvent paraître...
Oui, d'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de soucis. C'est vraiment quand on rentre dans le cœur du château.
Voilà, tout à fait. Alors, si on s'avance sur la façade, on voit bien aussi que les arcades qui sont devant sont complètement attaquées aussi par le gel, par l'humidité, le gel, etc. Donc là aussi, en s'approchant de près, mais effectivement de loin, ce château vraiment paraît complètement en état, quoi. Mais d'ici 10 ans, si on ne fait rien, c'est certain, il n'y aura plus de château. Donc du coup, voilà, il restera les remparts. Ceux du XIVe siècle, ils tiendront encore.
Mais l'urgence est là, en tout cas. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission Vivante Église. On revient dans quelques instants. Et pour cette première pause musicale, on écoute Bâtir une cité.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Florent Millet, recteur du sanctuaire de Rocamadour, et Pierre-Henri Delafage, directeur de ce sanctuaire, pour parler de la restauration du château de Rocamadour, le château de Rocamadour qui a besoin de travaux d'urgence pour continuer à exister. Pierre-Henri Delafage, justement, pour essayer de récolter des fonds pour débuter ces travaux, pour sauver le sanctuaire de Rocamadour, vous avez décidé de lancer une campagne de dons.
Oui, effectivement. Donc cette campagne a démarré, c'était en juin l'année dernière, hein, ça va faire à peu près un an. Et en fait, il y a eu tout un premier travail que nous avons fait avec l'accompagnement d'une agence de stratégie de communication et de levée de fonds qui nous a aidé à créer d'abord tous nos supports de communication, hein, que ce soit des tracks, que ce soit des... que ce soit des bannières, des banderoles, et puis après toute la stratégie de communication à déployer auprès des différents publics hein, que nous souhaitons toucher. Voilà, et donc ça, c'était un travail vraiment de fond qui a duré plusieurs mois hein, l'année dernière. Et en même temps, donc, il nous fallait saisir et capter ce public donc, qui vient chaque année à Rocamadour. Donc il y a eu tout un travail de fond avec le recrutement aussi par le diocèse d'un chargé de levée de fonds, en la personne de Guillaume Lévy, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, qui lui a accueilli pendant tout l'été les visiteurs au sein des jardins du château pour vraiment présenter cette restauration et donc l'enjeu de cette levée de fonds. Voilà, donc il y a eu cette captation du grand public. Alors ça a surtout été une opération de communication. On a également eu bénéficié du passage du Tour de France hein, le 23 juillet dernier, donc, qui était à Cahors la veille pour une arrivée. Et nous avons également eu une arrivée donc, le 23 juillet à Rocamadour pour une étape assez cruciale puisque le gagnant était... défini puisque le lendemain ce n'était plus que la course aux Champs-Élysées, la dernière étape. Donc voilà, il y a eu cette opération. Au-delà du grand public, évidemment, nous souhaitons toucher et nous lançons des actions auprès des entreprises pour une collecte, ce qu'on appelle auprès de l'impôt sur les sociétés. Et puis, par le biais de la Fondation du patrimoine, nous avons également toute une collecte pour toutes les personnes qui ont des problématiques liées à l'IFI, l'impôt sur la fortune. Voilà, donc toutes ces collectes ont été mises en place. Alors, une collecte diocésaine qui concerne plus les parties intérieures et pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Et puis une collecte plus sur les extérieurs et notamment avec la question de l'IFI grâce à... une convention que nous avons signée avec la Fondation du patrimoine.
Est-ce que vous avez le sentiment que les Lotois, et même plus largement, sont sensibles au sort du château de Rocamadour ?
Alors, nécessairement, ils sont très sensibles. Hein, on le voit, ils manifestent leur intérêt hein, pour la cité de Rocamadour, le château de Rocamadour. Néanmoins, il y a sûrement le contexte hein, actuelle de la situation hein, économique, la situation du pays qui fait que les donateurs soit sont frileux, soit ont d'autres problématiques personnelles à gérer. Donc c'est vrai qu'on arrive dans un contexte tout du moins assez difficile.
Et oui.
Voilà, mais on a quand même la manifestation de plusieurs donateurs. Alors déjà qui se manifestent par un petit don pour montrer leur intérêt auprès de ce projet hein, d'envergure. Et puis, tout notre travail, c'est de les inviter au sanctuaire pour ceux qui sont locaux, d'aller les rencontrer chacun, d'aller visiter les entreprises. Et puis également, on s'est lancé là depuis peu dans une exportation, entre guillemets, de notre produit ou de la marque du sanctuaire et de la restauration du château. Et Notre-Dame de Rocamadour va visiter les différents publics déjà sur le territoire national. Donc, on est allé faire une levée de fonds sur Paris et Versailles. Alors là encore, dans un contexte économique... il y a un contexte plutôt qui était compliqué étant donné qu'il y avait des manifestations. Voilà. Et puis on va lancer d'autres opérations. Là prochainement, on sera fin mai, le 31 mai, à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Et puis le lendemain, au Sable-d'Olonne. Et puis également, une opération dans les jours qui suivront, le 3 et le 4 juin, à Boulogne-Biancourt, de nouveau en région parisienne. À chaque fois avec des liens qui lient l'histoire de Notre-Dame de Rocamadour avec la mer et les marins, le Vendée Globe en Vendée, et puis à Boulogne-Biancourt avec Notre-Dame de Boulogne qui arrivait d'une mer un peu plus au nord. Voilà.
Alors c'est peut-être un petit peu une chance, on peut le dire pour vous, d'avoir Notre-Dame de Rocamadour, parce que vous pouvez aller chercher des financements qui sont larges.
Oui, effectivement, il y a ça, et on le doit notamment aussi à tous les jumelages et les partenariats qu'il y a eu par le passé. Ça, le père Florent peut-être peut rebondir à ce sujet, et on voit que c'est un réel appui.
C'est vrai que le sanctuaire de Rocamadour a de nombreux, si je puis dire, petits frères ou petites sœurs à travers le monde, puisque il y a des sanctuaires de Rocamadour un petit peu partout, dus aux marins qui ont été sauvés et qui ont construit qui est sauvé par l'intercession de Notre-Dame de Rocamadour et qui ont construit ces sanctuaires. On en retrouve tout un chapelet en Espagne, au Portugal, on en retrouve bien sûr au Brésil, on en retrouve bien sûr ne serait-ce qu'à Québec, puisque la ville de Québec doit sa fondation à Notre-Dame de Rocamadour, puisque la première pierre de Québec, de la ville de Québec, c'était la chapelle dédiée à Notre-Dame de Rocamadour, faite par Jacques Cartier. Donc vous voyez,
ça remonte.
Ça remonte, une très belle histoire. En France aussi, il y a des chapelles un petit peu partout, comme on connaît bien celle de Camaret-sur-Mer au niveau de Brest, mais tant d'autres aussi qui où on vénère la Vierge de Rocamadour. Voilà, donc du coup, ça nous permet de pouvoir avoir un point, une accroche, un intérêt à travers tout ce monde de manière très large, à travers aussi, bien sûr, comme l'a dit Pierre-Henri, tout le monde de la mer, puisque les marins tiennent lorsqu'ils partent, en particulier par exemple les marins du Vendée Globe, lorsqu'ils partent avant de partir, on leur propose de prendre une sportelle, on ne leur demande pas s'ils sont chrétiens ou pas, on leur dit juste, est-ce que vous voulez une sportelle de Notre-Dame de Rocamadour? Tous les marins, à chaque fois, ont pris une sportelle, et même la dernière édition, il y en a deux qui ont pris carrément une statue de Notre-Dame de Rocamadour dans leur bateau. Vous voyez comme quoi, c'est pas rien. Notre-Dame de Rocamadour, c'est pas un gris-gris qu'on amène avec soi, mais c'est cette confiance qu'on fait à la Vierge Marie pour nous ramener à bon port, parce que lorsqu'on est dans les 50e hurlant au fin fond du Pacifique, ce n'est pas la meilleure assurance qui vous ramènera à la maison. Il vaut mieux avoir une accroche au ciel, celle-là, c'est une meilleure assurance, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Et à Rocamadour, on dit, la devise, c'est l'espérance ferme comme le roc, pour bien montrer que un marin, même s'il est sur la mer, il peut s'appuyer sur le roc de Dieu pour pouvoir être ramené à bon port.
Bien évidemment.
Voilà. Alors, ce qui fait qu'on a des liens effectivement un peu partout, sans parler des jumelages en plus qu'il y a entre Notre-Dame de Rocamadour, mais aussi de nombreux sanctuaires mariaux à travers l'Europe, comme Chenstorova, comme Altötting en Allemagne, comme au Liban aussi. Et tant d'autres encore avec lesquels nous sommes, des sanctuaires avec lesquels nous sommes jumelés. Donc, ce qui fait que on a un grand réseau, mais après ça, effectivement, la question de la levée de fonds, c'est toujours quelque chose de délicat, parce qu'on sait bien que les gens peuvent être en difficulté, surtout aujourd'hui avec les mouvements sociaux qu'on peut connaître, en particulier chez nous, mais de manière générale. C'est toujours quelque chose de délicat, et en même temps, nous, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut, puisque en plus c'est moi qui ai lancé l'opération, donc je peux pas maintenant me dédire, mais il faut y aller, il faut y aller. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'aller à la rencontre des gens, parce que ça nous semble important que les gens sachent le péril dans lequel se trouve le bateau de Rocamadour.
Son château.
À savoir son château.
Alors que c'est notre paquebot, là.
Voilà, tout à fait.
Comme toute levée de fonds, j'imagine qu'il y a un objectif à atteindre. Est-ce que vous pouvez nous le communiquer?
Oui, alors on est sur une levée de fonds pour l'ensemble des travaux, de toute cette restauration, de toute cette campagne et tout. On est sur une levée de fonds de 5 à 6 millions d'euros, alors qu'il est encore difficile à estimer, parce qu'il y a l'augmentation du coût des matières premières. Actuellement, notre architecte, pour vous donner un peu une idée, on en est à la phase où le permis a été déposé en janvier, tout récemment, et on est sur une phase d'étude où l'architecte et ses équipes sont en train d'affiner le prix et la tarification pour l'appel d'offres qui va être lancé. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce prix entre 5 et 6 millions d'euros. Donc ça reste une somme importante, et en même temps, par rapport à d'autres restaurations sur des lieux emblématiques et dépendant des monuments historiques et d'un site hyper classé relevant du ministère de la Culture, bah finalement, ce n'est pas si cher que ça non plus. Il y a des levées de fonds bien plus importantes qui sont faites. Donc ça nous paraît important voilà, d'aller vers ces actions, notamment à partir de l'histoire de Rocamadour et d'aller à la rencontre de tous ceux qui sont sensibles à l'histoire du lieu de Rocamadour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la procédure pour faire un don pour la restauration du château de Rocamadour ?
Oui, alors pour ça, nous avons mis en place deux collectes qu'on retrouve sur notre acte, on a créé un site aussi qui s'appelle j'aimerocamadour.com, assez simple, on retrouve toutes les informations. Et donc, il y a deux collectes. Il y a une collecte, comme je l'ai dit au préalable, une collecte diocésaine, donc, qui nous envoie sur le diocèse de Rocamadour. Donc, on peut faire ça en ligne. C'est très, très simple, en quelques clics. Voilà. Et donc là, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Et puis, il y a en parallèle une collecte dédiée par la Fondation du patrimoine sur la restauration du château de Rocamadour. Et donc là, ça va s'adresser plus aux personnes qui ont des problématiques, donc des entreprises, impôts sur les sociétés ou des grands donateurs sur des questions d'IFI. Et donc là, notamment, c'est un public qui est très sensible à la restauration du patrimoine culturel de Rocamadour. Et voilà, pour toutes ces personnes, peut-être qu'il y aurait parfois un peu des difficultés avec l'Église, hein, parce que le propriétaire, c'est l'Église, hein, c'est le diocèse de Cahors. Ben, c'est par cette collecte de la Fondation du patrimoine, c'est un moyen non pas de restaurer le château pour son usage, mais plutôt pour préserver ce visuel de Rocamadour qui est si cher à toute personne. Hein. On a vu encore qu'on était la première destination française référencée par Google, c'était dans les actualités de la semaine dernière. Donc c'est vraiment lorsque on représente la France, très souvent Rocamadour est utilisé. On le voit notamment en Asie, à côté de l'ambassade. Voilà, on monte la France, c'est Rocamadour avec son château, son village, ses montgolfières. Voilà. Donc tout ça, c'est pour dire que voilà, ceux qui ont du mal un petit peu avec l'Église, ils peuvent passer par ça. Et puis également dans cette levée de fonds, ils pourront participer à l'ouverture à ce château pour le grand public et cette possibilité d'accéder au rez-de-chaussée, au jardin, mais que nous voulons plutôt sur certains temps, comme les journées du patrimoine, certains moments dans l'été. Et en même temps, nous voulons préserver quelques moments plus fermés pour ceux, comme l'a dit le père Florent Millet, qui viennent au service du sanctuaire et qui ont besoin aussi de se reposer de toute l'action qu'ils ont de mission sur les parvis du sanctuaire.
Alors si vous atteignez cette somme, je le rappelle, 5-6 millions d'euros, quand est-ce que les travaux pourraient débuter ?
Eh bien, on est sur un objectif de démarrer ces travaux, donc la première phase qui serait ce curage, comme on l'appelle, de nettoyer tout l'intérieur du château, sur la fin 2023, premier trimestre 2024. Voilà, ça sera un objectif.
Donc ça va vite arriver en tout cas, donc c'est maintenant qu'il faut donner.
C'est maintenant qu'il faut donner pour éviter des problématiques de trésorerie, notamment.
Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette émission. On revient dans quelques instants pour cette troisième partie. On parlera aussi un petit peu de l'histoire du lieu du sanctuaire de Rocamadour et des événements qui sont prévus. On écoute Terre d'avenir, Terre de demain.
Tendre les mains.
Présence à Montrégeau 94.1.
Vivante Église, Timothée Rouvière.
De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le père Florent Millet, recteur du sanctuaire de Rocamadour, et Pierre-Henri Delafage, directeur de ce sanctuaire de Rocamadour, pour parler de la levée de fonds pour sauver, on peut le dire, ce sanctuaire qui a besoin d'importants travaux de restauration. Pour faire un petit point supplémentaire, on a oublié de le dire tout à l'heure, concernant le mécénat, les financements, vous m'expliquez que il y avait possibilité de financer juste pour une partie de ce château de Rocamadour, c'est ça?
Oui, effectivement. En fait, ce qu'on veut proposer à tous nos partenaires qui voudraient se lancer dans l'aventure et puis participer à cette restauration, ce serait par exemple le financement d'une chambre avec son accès PMR qu'on estime à autour de 50 000 euros. Ou le financement de la coursive qu'on voit devant avec les arcades. On pourrait imaginer une entreprise là, qui veut vraiment montrer avec une pierre de taille, on mettrait son enseigne, et discrètement bien sûr. Et on serait sur une enveloppe de 150 000 euros. Après, il y a l'aménagement des jardins. Alors, on pourrait voir une entreprise de jardinerie locale ou autre qui voudrait vraiment pouvoir faire du co-branding avec nous et vraiment voilà, avoir cette image d'avoir pu restaurer donc, ce jardin du château. Donc là, on serait sur une enveloppe autour de 60 à 80 000 euros. Enfin voilà, il y a plusieurs ensembles comme ça que l'on souhaiterait imaginer et proposer, sachant que pour cela... Oui, alors tous ces éléments, bien évidemment, vous les retrouvez sur le site, hein, j'aimerocamadour.com. Et puis pour cela, donc, il y a des contreparties qu'on voudrait proposer. Alors ces contreparties, elles sont diverses. Hein. Ça serait notamment l'utilisation de cette grande salle que l'on veut au rez-de-chaussée, Historama, ou qui pourrait être utilisée par les entreprises pour faire, par exemple, un séminaire ou une présentation de produits, un lancement de produits avec disposition de la salle pendant 4-5 ans, voilà, en échange. Bon, ça, c'est à discuter un peu avec chacun des partenaires en fonction de ce qu'ils sont prêts à mettre. Et puis en même temps, bah, leur donation, bah, évidemment, donne droit à un reçu fiscal et ils auraient le bénéfice de ce lieu. On pourrait prévoir aussi qu'une association qui est... notamment sur la fragilité, qui voudrait venir avec un petit groupe de pèlerins de son association, ben, avec le financement d'une ou deux chambres ou d'un dortoir en partie supérieure, elle pourrait avoir son nom et elle pourrait venir finalement gratuitement hors saison, tous les moments où ce château n'est pas utilisé par la vie du sanctuaire, comme vous le disiez le père Florent, lors de l'été par les bénévoles. Eh bien, il pourrait avoir le bénéfice de cette chambre et pouvoir participer au pèlerinage à Rocamadour en envoyant des délégations. Voilà, donc tout ça, on veut vraiment que ce château puisse finalement être un peu le prolongement de toutes ces associations et entreprises, que chacun puisse se projeter et pouvoir avoir sa place au sein de ce château et au sein du sanctuaire. Voilà, s'il peut être restauré, c'est grâce à chacun qui mettra du sien et qui en même temps pourra venir bénéficier des lieux en contrepartie gratuitement. Voilà.
Alors je pense que nos auditeurs connaissent tous le château et le sanctuaire de Rocamadour, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'histoire peut-être ?
Alors, le sanctuaire de Rocamadour... est un sanctuaire très 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 ancien, hein, puisque c'était pendant très longtemps, hein, le quatrième pèlerinage de la chrétienté. Hein, c'est ainsi que le pape le présentera en 1155. Voilà, quatrième pèlerinage de la chrétienté après Jérusalem, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, Rocamadour, vous voyez. Et cela veut dire qu'il est inscrit dans l'histoire de l'Église depuis bien longtemps, je vous l'ai dit, hein, bien avant le 5e siècle, déjà il existe. Hein, et puis au début, c'est un tout petit sanctuaire qui fait 9 mètres carrés, où on arrive par des chemins escarpés. Et puis ensuite, au 12e siècle, hein, Géraud d'Escorail, père abbé de l'abbaye de Tulle, va décider de construire ce sanctuaire que nous avons aujourd'hui, hein, dans sa plus grande partie encore intacte, hein, puisque le sanctuaire a quand même été détruit à 3 reprises, hein, une fois par nos amis anglais, une fois par nos amis protestants et une fois par nos amis français, c'est-à-dire la Révolution. Voilà, donc du coup, ce qui fait qu'il a été restauré au 19e et pas mal, une partie voilà, est vraiment donc assez récente. Au XIVe siècle, je l'ai dit tout à l'heure, le rempart avait été construit en haut pour protéger des assaillants. Bon, ceci dit, ça ne va pas résister bien longtemps, mais c'est comme ça. Et puis, entre en haut le château et le sanctuaire, au XIVe siècle, va être construit un escalier qu'on appelle aujourd'hui l'escalier secret et que l'on fait visiter ponctuellement aux visiteurs qui veulent bien venir nous voir là, au niveau du château, en particulier tout au long de l'année quand on fait des temps d'accueil, mais aussi, bien sûr, à tous nos donateurs. Hein, nous faisons visiter ce passage secret, hein, où on passe carrément à travers la falaise, hein, pour arriver... dans un placard de la sacristie, au sanctuaire même. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez, une expérience assez extraordinaire, hein, que les gens peuvent vivre à Rocamadour. Voilà, toujours, bien sûr, dans le cadre de cette restauration. Au niveau de l'histoire, il y a eu des gros travaux de restauration de l'ensemble du sanctuaire au XIXe siècle qui ont été faits par l'abbé Cheval, un prêtre de Montauban qui était architecte et qui va restaurer intégralement le sanctuaire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Et puis au niveau du château, pour le coup, c'est une autre histoire puisque au XIXe siècle, un prêtre de Paris hein, qui s'appelle l'abbé Caillot et qui veut fonder une confrérie, une congrégation missionnaire, de prêtres missionnaires, achète les remparts qui sont à ce moment-là bien d'état après la Révolution. Il achète ce lieu, il construit ce qu'on appelle aujourd'hui le château de Rocamadour, c'est-à-dire une maison pour ses missionnaires, qu'on va appeler la maison des chapelains. Et ensuite, eh bien, il va faire donation de ce lieu à l'évêque, à Mgr Bardou à l'époque, à l'évêque de Cahors, pour qu'il devienne un lieu pour les prêtres du diocèse, les prêtres missionnaires du diocèse, parce que la congrégation que voulait monter l'abbé Caillot ne verra pas le jour pour finir. Et donc, du coup, ce château, cette maison de chapelain sera construite à ce moment-là. Et ensuite, elle va servir encore jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. En définitive, j'ai connu encore pas mal de prêtres du diocèse qui étaient à Rocamadour, qui logeaient à Rocamadour et qui étaient missionnaires diocésains, hein, qui allaient dans toutes les paroisses, voilà, pour des missions paroissiales, et qui, l'été, bien sûr, étaient plus particulièrement au service du sanctuaire. Alors depuis les années, début des années 80, eh bien, après le Concile, les missions vont s'estomper, etc. Et puis de plus en plus, la raréfaction des vocations vont faire que les prêtres petit à petit vont être redéployés sur les paroisses. Et donc du coup, le château va devenir un lieu voilà, qui va accueillir principalement le recteur, et puis petit à petit aussi quelques personnes qui vont venir pour travailler au sanctuaire. Mais voilà, donc ça va être plus ou moins un lieu laissé en déshérence jusqu'à ce que le père Ronan de Gouvelot, là, qui était le recteur du sanctuaire, non pas avant moi mais encore avant, relance un petit peu le rayonnement du sanctuaire de Rocamadour, qui était, il faut bien le dire, un petit peu endormi. Et donc du coup, dans les années 2010, etc., il va relancer tout cela. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Rocamadour, en France, ça veut dire quelque chose. Alors que au début des années 2000, on n'entendait plus beaucoup parler de ce lieu, à part comme un lieu touristique seulement, puisque Rocamadour est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais on n'entendait plus beaucoup parler comme un lieu de pèlerinage. Et là, maintenant, cette dimension de pèlerinage a bien repris sa place. C'est la place principale. Et c'est en particulier tout le but pour lequel le sanctuaire a été construit. Venir honorer la Vierge Marie, cette Vierge noire qui est assise sur un trône, qui a Jésus sur son genou gauche et qui nous présente son genou droit pour devenir nous, si nous le souhaitons, ses enfants bien-aimés, et puis qui nous présente bien sûr son fils Jésus à côté de nous, sur l'autre genou, et il nous dit, voilà, si tu veux être sauvé, prends mon fils par la main, il deviendra ton grand frère, et puis il t'entraînera vers le salut. Vous voyez, un beau message à Rocamadour, un message en même temps de maternité, un message de salut, et puis en même temps un message tout simplement très, si je puis dire, familial, entre dans ma famille, quoi. C'est un petit peu ça, le sanctuaire de Rocamadour.
Justement, on sait que les pèlerinages occupent une place importante dans le programme du sanctuaire de Rocamadour. Quels sont les autres gros événements qui sont prévus cette année ?
Alors, des gros événements, nous nous en organisons pas beaucoup en tant que tels, parce que c'est vraiment, on fait beaucoup d'accueil de gros événements, que ce soit des pèlerinages, comme vous le disiez tout à l'heure, de pères de famille, de mères de famille, ou autres gros événements paroissiaux. Dernièrement, on a accueilli toute la pastorale des jeunes, des étudiants de Toulouse, qui sont venus à plus de 150 avec Mgr de Kerimel qui était là. C'est un bel événement, mais il y a aussi prochainement les JMJ, comme vous le savez. Et ça va être un passage obligatoire, entre guillemets, pour beaucoup de diocèses qui viennent passer une journée à Rocamadour. On attend entre 2000 et 3000 jeunes qui partent vers les JMJ, qui vont venir passer une journée ou plus, parce que même on a tout un groupe de Taïwan amené par les MEP qui vont passer une semaine à Rocamadour. Vous voyez, donc c'est quand même un lieu vraiment où on accueille, entre guillemets, nous n'organisons pas grand-chose, mais on accueille beaucoup. Après, bien sûr, comme vous le savez, le sanctuaire a des temps forts, hein, voilà, où nous organisons au moment de Noël un temps en plus de récollection, au moment de Pâques il y a eu toute la semaine sainte avec le Triduum Pascal qui était tout animé, et bien sûr la semaine mariale au moment du 8 septembre. Et là cette année, ça va être jumelé avec un événement, là encore une fois, qui nous vient de l'extérieur. Vous avez peut-être entendu parler de la Coupe du Monde de rugby.
Et oui.
Eh bien, figurez-vous que la Coupe du Monde de rugby ne commence pas à Paris, mais elle commence à Rocamadour.
Puisque
à Rocamadour, Pierre-Henri...
Alors, effectivement, donc la Coupe du Monde va démarrer le 8 septembre, hein, comme beaucoup d'amateurs de l'Ovalie le savent, hein, dans notre région du Sud-Ouest.
Jour de la fête de Notre-Dame de Rocamadour.
Exactement. Et donc, il y a une opération qui aura lieu, puisque bon, c'est peut-être une première, on va le dire, sur la radio. Je ne sais pas si c'est encore très, très officiel. Les arbitres de la Coupe du Monde devraient se faire remettre leur sifflet par les aigles du Rocher des Aigles au niveau du château de Rocamadour. Donc ce sera un événement assez important et donc lié à cet attachement à Notre-Dame de Rocamadour, puisqu'il y a la chapelle de l'Ovalie au sanctuaire où beaucoup de pèlerins et visiteurs aiment passer au-delà de la basilique, la chapelle Notre-Dame. Voilà, il y a aussi cet intérêt pour le monde sportif. À Rocamadour.
Et en même temps, le monde de la fragilité dans le sport, puisque voilà, c'est toute une association qui soutient cette chapelle, voilà, de tous les blessés du rugby en particulier. Donc c'est quelque chose de très très beau. Régulièrement, ils viennent à Rocamadour en pèlerinage, hein, pour confier, voilà, tous les blessés du rugby. Donc voilà, là aussi, un grand événement, si je puis dire, médiatique, parce que là, c'est au-delà de Rocamadour, bien sûr. Et puis encore, bien sûr, d'autres événements avec les journées du patrimoine où chaque année voilà, on est très largement ouvert pour pouvoir faire profiter aux gens de ce lieu assez unique en son genre et qu'en fait on s'aperçoit même les Lotois connaissent assez mal, ils connaissent de manière très générale le sanctuaire, mais ils connaissent assez peu les coulisses, ils connaissent assez peu le château bien sûr, parce que malheureusement il était fermé au public jusqu'à aujourd'hui, hein. Et en fait ils connaissent assez peu même l'histoire même de ce beau lieu, hein.
Et en grande fête mariale quand même, il ne faut pas oublier au cœur de l'été la grande procession du 15 août et toutes les fêtes autour de l'Assomption, voilà, qui réunissent beaucoup de monde vraiment au cœur du mois d'août. Voilà.
En tout cas, il y a beaucoup de beaux événements qui sont prévus au château et au sanctuaire de Rocamadour. Et je rappelle cette adresse si vous voulez faire un don pour sauver le château de Rocamadour qui est en grand danger. J'aimerocamadour.com et vous trouvez toutes les informations sur le site internet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon invitation et d'être venus nous parler de la sauvegarde du château de Rocamadour.
Merci à vous. Et
merci
puis,
beaucoup.
Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, nous avons la solution pour sauver ce château, mais la difficulté, c'est que la solution, elle est dans votre poche.
J'espère que les auditeurs pourront donner un petit peu de leur poche pour sauver ce château de Rocamadour.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Timothée.
Merci à vous. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.